La France bouge, c'est jusqu'à 14h et c'est l'heure, Raphaël Duchemin, de découvrir la solution du jour avec Elisabeth Assayag.
Ouais, vous vous déplacez peut-être à vélo et parfois vous avez un pneu crevé ou un problème sur votre dérailleur. Elisabeth, il y a une solution, elle s'appelle Ridee.
Mais oui, c'est très simple. Entre 9h et 20h, tous les jours, un réparateur de vélo vient chez vous pour vous aider à arranger votre vélo. Un pneu à plat, une révision de vélo, un réglage de frein, un vélo classique ou un vélo électrique. Hein, vous avez tout imaginé avec Ridee. Bonjour Philippe Leclerc.
Bonjour Elisabeth.
Justement, vous êtes le cofondateur de Ridee. Vous, à l'origine, c'était pour encourager la pratique du vélo, notamment sur les trajets domicile-travail. C'est là qu'est partie l'idée.
Exactement ça. Nous, on s'adresse vraiment aux vélotaffeurs. Je ne sais pas si vous connaissez le concept. C'est les gens qui vont tous les jours au boulot à vélo.
Et vélo, en fait... boulot, c'est d'ailleurs écrit sur votre sweatshirt.
Hein.
Il y a l'apéro aussi.
Ce sera pour tout à l'heure.
À vélo.
Ensemble. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner cette pratique du vélo. Aujourd'hui, quand on a un problème avec son vélo, c'est la plaie, on grimace parce qu'il faut aller à l'atelier, revenir 3 jours après, etc. Mmh. Et nous, on voulait encourager cette pratique pour une simple crevaison, se déplacer et venir dans la journée.
Alors, donc, vous avez deux volets dans votre solution. Hein. Vous vous adressez aux particuliers, mais aussi aux professionnels, aux entreprises. Donc, concernant les particuliers, j'ai mon vélo. Imaginez, je suis à un feu rouge et mon vélo, le pneu crève. Comment vous pouvez m'aider ?
Alors, on ne va pas venir dans les 5 minutes, mais par contre, on va se débrouiller pour venir dans les 2-3 heures. Mmh. L'objectif, c'est soit que vous accrochiez votre vélo là où vous êtes, et puis vous continuez votre transport, enfin, votre trajet en transport en commun, et on se donne rendez-vous à cet endroit-là. Ou alors, vous pouvez le tirer, si vous êtes à 100 mètres de votre entreprise, vous le tirez jusqu'à votre entreprise, et puis on passe dans la journée. L'objectif pour nous, c'est vraiment qu'à la fin de la journée, vous n'ayez pas à rentrer bredouille, sans vélo. Donc ça se passe vraiment sur la journée.
Guillaume ?
Il y a donc le client particulier, mais on pense forcément au Vélib et à toutes les flottes de vélos qui sont un peu partout dans les villes. Est-ce que vous positionnez aussi là-dessus, de dire on prend des contrats auprès de la mairie ou des opérateurs ?
Alors aujourd'hui, on a des contrats, pas forcément de la taille de Vélib parce que c'est encore trop gros pour nous. Par contre, on travaille avec la mairie de Paris, par exemple, qui a ses propres agents. Il y a une centaine de vélos électriques pour les agents de la ville de Paris. On fait l'entretien. On fait beaucoup d'entretiens de flotte qui vont plutôt de 5 à 30 vélos. Et c'est des entreprises qui sont un peu pionnières aujourd'hui, qui proposent aux entreprises d'avoir des vélos de fonction ou des vélos en partage dans l'entreprise. On a plein d'exemples et on vient faire à la fois l'entretien, donc c'est quelque chose qui est planifié, mais on vient aussi faire le dépannage quand les salariés eux-mêmes ont eu un problème avec les vélos.
Vous avez noué un partenariat avec la RATP aussi ?
Tout à fait.
Là, c'est récent ?
C'est récent, enfin, ça fait un an et demi qu'on le teste et puis ouais. le partenariat a pris de l'ampleur il y a
c'est
6 mois. On est sur une dizaine de gares, donc c'est des gares de première couronne. J'insiste parce qu'en fait, c'est vraiment sur l'idée de travailler sur la multimodalité. L'objectif, c'est de récupérer toutes les personnes qui font domicile, gare à vélo le matin, qui ensuite prennent le RER et puis qui reviennent récupérer leur vélo le soir. Et en fait, c'est des zones qui sont un peu désertées par les réparateurs de vélo. Il y a des Décathlon à 5 km, mais sinon, c'est un peu la plaie pour trouver son réparateur de vélo. Donc, on installe une solution éphémère le temps de la journée. On est là tôt le matin à 7h. Donc, c'est des amplitudes horaires larges. On repart vers 19h, 20h.
Donc, moi, je me rends au travail. Et pendant ce temps, vous réparez mon vélo et je le récupère le soir.
Vous êtes uniquement donc, en région parisienne, mais est-ce que vous avez envie de vous développer ? Est-ce que vous avez déjà des idées de villes ?
Bien sûr. Bien sûr, on fait un peu notre... Enfin, à Paris, il y a déjà fort à faire, notamment avec les entreprises, parce qu'on a un autre volet, peut-être on en parlera tout à l'heure, mais on anime beaucoup d'ateliers dans les entreprises.
Et, des ateliers vélos ?
Des ateliers vélos.
C'est-à-dire ?
Le principe, c'est qu'en fait, il y a les vélos de l'entreprise, on en parlait tout à l'heure, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent avec leur propre vélo. Et l'entreprise, via le CE ou via un système de conciergerie, offre aux salariés une révision par an ou 2 révisions par an. Et on vient faire 20-30 vélos dans la journée, et ça encourage la pratique du vélo pour tous ces vélos d'affaires.
Guillaume Gibault.
Vous avez un nom assez start-up, on imagine des ambitions, des levées de fonds peut-être ou pas. Est-ce qu'il y a des modèles à l'étranger dont vous vous inspirez, dans des pays où il y a plein de vélos ? Est-ce qu'aux États-Unis ou est-ce qu'aux Pays-Bas par exemple ? Est-ce qu'il y a d'autres boîtes qui vous servent de modèle ?
Aux Pays-Bas, il y a ce service, évidemment, il existait déjà. La différence, c'est qu'aux Pays-Bas, il y a aussi beaucoup de corners. Déjà dans la ville, on trouve tous les 200-300 mètres un corner de vélo. Et du coup, la solution de déplacement est moins pertinente.
Et c'est pas quelque chose que vous pourriez imaginer, ça ?
Bah, du coup, aujourd'hui, on fait des ateliers éphémères dans les gares avec la RATP, mais En novembre, on pourrait trouver un corner à Nogent-le-Perreux, une boutique directement dans la gare. Donc là, on travaille plutôt avec les SNCF. Et l'idée, c'est que c'est un service qui est proposé de vente et de réparation de vélos dans tous les endroits où il y a du mobilier, il y a de l'espace, mais on ne sait pas trop quoi faire comme service. Et les gens ont envie d'avoir un service de réparation, de vente d'accessoires. Quand il pleut, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le poncho, etc.
J'ai vu sur votre site internet que vous êtes actuellement en train de recruter des réparateurs de vélos.
Oui, alors on a trouvé deux récemment. On est très contents parce que ce n'est pas facile de trouver les bons profils.
Quelles sont les qualités requises?
Déjà, vous savoir réparer les vélos, donc
on vérifie qu'il
y a un CQP, il y a un certificat de qualification professionnelle qu'on peut passer. On regarde un peu s'il y a un peu d'expérience, c'est quand même plus agréable. Et puis ensuite, il faut savoir que nous, on est toute la journée dehors, avec un vélo cargo ou avec un atelier éphémère, mais donc ça demande pas mal de conditions physiques et demande aussi beaucoup de débrouillardise. Là, toute la journée, les réparateurs sont presque seuls et nous, on a un backup derrière, mais toute la journée, ils sont en face du client toute la journée et donc il y a aussi un service client qui est très 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 important chez nous.
Ça s'appelle Raidi et en plus, voilà.
Joli,
magnifique.
Eh oui, Raidi. Et vous figurez, je le précise, dans la liste des lauréats de la France des solutions, Elisabeth.
Oui, c'est ce soir.
Semaine organisée par Reporters d'Espoir. La remise des prix a lieu effectivement ce soir. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Il est 12h57.
Europe 1.
Et vous restez, bien sûr, on va s'intéresser au gaspillage alimentaire. Que faites-vous, justement, chez vous, par exemple, pour essayer de limiter ce gaspillage? Vous nous appelez 3921 et Twitter, c'est la France qui bouge. À tout de suite.
Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge aujourd'hui. Vous le savez, c'est la journée mondiale de l'alimentation et c'est aussi la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Vous allez pouvoir constater qu'on a su saisir, ici en France, le problème à bras-le-corps pour essayer de moins jeter, de mieux manger, de mieux consommer. Même si c'est vrai, il y a encore des efforts à faire puisque nos poubelles contiennent encore 29 kilos de nourriture par an et par habitant. Bonjour Xavier Corval.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président d'Écosphère. Vous êtes un des pionniers, j'ai envie de dire, de la réduction des surplus, des déchets, de leur revalorisation aussi en France, puisque quand vous vous êtes intéressé au problème, ça n'existait pas vraiment encore en France. On est en 2009.
2009, l'idée d'Écosphère, effectivement, oui. Un matin, je me suis réveillé et je me suis dit, ça y est, tu as les solutions aux problématiques que tu as en tête depuis 15 ans. J'étais étudiant à Sciences Po. Depuis 15 ans, à l'époque, en 2009, à l'époque, j'étais étudiant à Sciences Po et un de mes jobs, c'était de servir des cocktails d'inauguration des expositions du pavillon de l'Arsenal. Et je me retrouvais genre chef d'équipe à la fin avec des surplus que je ne voulais pas jeter. Et donc, je les prenais en catimini sur mon scooter et j'allais les distribuer à des personnes sans abri dans Paris. Et comme le samedi soir, je me retrouvais de l'autre côté du buffet.
En catimini, parce que c'est interdit.
Pas encadré. Et puis le samedi soir, j'étais de l'autre côté du buffet. Donc, je me disais, il y a des surplus partout tous les samedis soirs. Donc, un jour, il faudrait que tu apportes des solutions professionnelles aux acteurs qui ont la contrainte des déchets du gaspillage. Et en même temps, il faudrait que tu facilites la concrétisation d'un acte de générosité comme le don solidaire. Et comme j'ai fait une dizaine d'années de conseils en stratégie web, en 2009, je me suis dit, tu vas créer une plateforme numérique de connexion intelligente entre tous les surplus alimentaires et non alimentaires, tous les déchets des acteurs professionnels, et puis le don aux acteurs de la solidarité pour l'améliorer, et puis les filières de recyclage et d'économie circulaire. Ça, c'était 2009. Et ensuite,
2012, ça démarre vraiment.
C'est
là,
la création de l'entreprise.
Ça y est, c'est parti.
Exactement. Écosphère. Entreprise sociale.
Donc, vous envoyez voir les gens qui travaillent avec vous dans les poubelles de vos clients? Comment ça se passe?
Première expérience avec la grande distribution, avec Auchan, hypermarché Auchan du Crène à Bicêtre.
On prend la poubelle et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur.
À 6h du matin, on va analyser les poubelles. On va comprendre pourquoi les produits y sont, les produits alimentaires qui sont encore consommables.
Par exemple
des produits type les légumes, type les fruits, des produits dont la date limite de consommation n'est pas dépassée. C'était en 2012, je le répète. Et puis là, on commence à comprendre qu'il faut apporter beaucoup plus que du numérique en fait, aux acteurs professionnels pour les aider à ce que nous, on appelle la professionnalisation de la réduction du gaspillage, la réduction des déchets et ensuite optimiser ce qu'on appelle la revalorisation, le don, le recyclage.
Donc il faut leur donner les bons outils pour qu'ils puissent trier. Finalement.
Exactement. En fait, il faut comprendre pourquoi les produits sont dans les poubelles. Ensuite, faire des préconisations, des recommandations sur ce qu'on appelle la gestion des flux de produits qui sortent du rayon et qui vont jusqu'à l'entrepôt et jusqu'aux poubelles. Donc c'est des préconisations sur l'organisation, le management, la sortie de rayon. C'est la formation des collaborateurs aussi, on n'en parle pas assez souvent, mais les process c'est important dans une entreprise, mais la culture de l'entreprise c'est très important. Et donc, c'est tout ça qu'on a mis en place depuis 2012. Le numérique est devenu un outil parmi d'autres, relatif, parce qu'en fait, j'ai compris que jamais le numérique ne pourrait impacter les process et la culture d'une entreprise. Parce qu'en fait, le cœur de métier de la grande distribution, c'est de vendre, c'est pas de réduire le gaspillage. Le cœur de métier d'un hôpital, c'est de soigner des patients,
bien
c'est
sûr.
Pas de réduire le gaspillage.
Justement, le gaspillage alimentaire, Elisabeth, ça représente quoi ? C'est toujours aussi important ou est-ce qu'il y a un petit effet quand même ?
En tout cas, il y a une prise de conscience, mais les chiffres donnent encore le tournis. Hein. 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année en France. Ça nous coûte 16 milliards d'euros. Ce sont les derniers chiffres de l'ADEME. Le gaspillage alimentaire des foyers français, ce sont 30 kilos par an par habitant. Ça correspond à 160 euros par an et par personne. Et le pire, c'est que 7 kilos de ce gaspillage, ce sont des aliments encore emballés. Par exemple, en France, une salade verte sur deux est jetée et plus de 9 milliards d'œufs finissent à la poubelle.
Qu'est-ce que vous faites, vous, justement, chez Ecosphère, de tous ces déchets qui sont collectés ? Vous les donnez aux associations ? Ça
Alors,
marche comment,
déjà,
le
on les appelle des futurs ex-déchets.
On
fait tout pour les sortir de la poubelle et aller vers ce qu'on appelle le zéro déchet enfoui, qui est le pire du déchet, parce qu'il crée de l'émission de gaz à effet de serre, du réchauffement climatique.
Pour
c'est
venir
terrible.
À ce que vous appelez les déchets incompressibles, c'est
voilà.
ça
Voilà. Alors, tout le travail qu'on fait en amont, et pour moi c'est le plus important aujourd'hui, le travail en amont, réduire tous les facteurs de création de gaspillage, de déchets, tout le travail qu'on fait en amont sur les diagnostics, les process, la culture, le reporting aussi pour comprendre si ce qu'on met en place est performant sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan environnemental. Tout ça, ça a un objectif, c'est de réduire acteur par acteur, secteur d'activité par secteur d'activité, les déchets à un niveau qu'on va considérer comme étant légitime, incompressible, lié à l'activité économique, aux aléas. Et ensuite, sur ces déchets, ces surplus résiduels, on optimise leur orientation, leur utilisation, en améliorant l'approvisionnement des acteurs de la solidarité, c'est-à-dire les cœurs de la motivation de la création d'Ecosphère, l'améliorer pas seulement en quantité, mais en qualité, en dignité. Et puis, sur les autres types de déchets, alimentaires et non alimentaires, les filières dites de réemploi, de recyclage et d'économie circulaire dont on parle de plus en plus.
Notre coach, Guillaume Gibault.
Comment est-ce qu'on sensibilise vos clients ? Parce que le sujet est compliqué, il faut de la pédagogie, il faut du temps. C'est en plus d'autres contraintes dans des secteurs d'activité qui sont voilà, parfois challengés. On a du mal à bien faire son métier. On se dit en plus, il faut que je regarde ça, il faut que je gère mieux mes déchets, mes stocks, mes invendus. Comment est-ce que vous arrivez à les convaincre, de se dire ok, je vais prendre ce niveau de contrainte en plus parce que oui, j'ai envie de faire du sens, mais en vrai, c'est ça en plus de ma vraie vie qui est déjà pas forcément évidente.
C'est contraignant.
Alors, Exactement. En fait, il faut d'abord comprendre que ce n'est jamais le cœur de métier de nos clients que de s'intéresser au gaspillage, même si c'est une démarche de responsabilité sociétale qui s'étend de plus en plus. Je vais vous raconter un rendez-vous des plus emblématiques que j'ai eu auprès d'un directeur d'une enseigne qui nous dit de manière un peu pressurisante au début d'un rendez-vous de prospection pour le convaincre de travailler avec nous. Vous savez, je comprends pas pourquoi de trop je vous reçois à Ecosphère. Moi, je ne jette rien. Et en fait, il faut entendre quand quelqu'un nous dit « je ne jette rien » qu'il ne peut pas ne pas jeter. Qu'au niveau de contraintes, comme je le disais un instant, ou de manque de solutions qu'il perçoit, en fait, je ne jette rien, ça veut dire je ne peux pas ne pas jeter. À la fin du rendez-vous, de ce rendez-vous emblématique, il me dit, mais en fait, dans votre logique, à Ecosphère, je jette tout. Donc, quand est-ce qu'on commence à travailler ensemble ? Et là, ça devient intéressant. Et on agit sur plusieurs leviers.
Mais comment vous levier... lui démontrez ?
Comment ? Il y a plusieurs leviers, en fait. D'abord, il faut être dans une logique positive, pas de culpabilisation, sinon on coince les acteurs. Il faut être dans des démarches de progrès. Où ce qui compte, c'est ce qui se fait et pas ce qui ne se fait pas. Donc, il y a plusieurs leviers. Il y a le levier de la responsabilité, il y a le levier économique, parce qu'effectivement, réduire le gaspillage, c'est aussi mieux s'approvisionner, mieux offrir à ses clients. C'est aussi réduire les frais de traitement et de collecte des déchets. C'est aussi de la réduction fiscale, c'est de la revalorisation marchande. Il y a un levier d'image qui est très important aujourd'hui, parce que la pression sociétale, l'attention médiatique, la vôtre, grâce à la vôtre, en fait, fait que chacun se sent concerné, salarié, employeur, citoyen. Et puis... bien entendu, il y a ce levier de la responsabilité sociétale des entreprises et des organisations.
Xavier, moi je voudrais savoir, vous étiez je crois ce matin dans un hypermarché, c'est un des premiers avec lesquels vous avez commencé à travailler hein, il y a 7 ans. C'est un hypermarché pionnier. Quelle est la différence entre il y a 7 ans et aujourd'hui ?
Il y a beaucoup de choses qui ont changé en fait depuis 7 ans parce qu'il y a une prise en main par toutes les directions, par exemple dans un hypermarché, de cette problématique du gaspillage alimentaire. Auparavant, c'était la direction développement durable, éventuellement la direction innovation. Petit à petit,
c'est tout le monde.
C'est les directions des achats, ce qu'on appelle les achats des services non marchands, qui se disent « Ok, là, il y a un vrai sujet qui est transversal pour l'entreprise. » Donc ça, c'est une vraie évolution. Après, ce qui importe, dans la logique d'Ecosphère, de stratégie globale, de solution globale amont-aval, c'est de constater que, en fait, par unité, de production de déchets, les volumes ont vocation, mais vraiment vocation, et ont tendance à baisser. Parce qu'effectivement, il y a cette démarche totale de la société, de la réglementation, de la politique et de porteurs de solutions comme Écosphère qui font qu'aujourd'hui, on arrive à réduire les volumes de déchets. Et donc, pour ce qui concerne le don solidaire, qui est un moment qui est très important dans notre mission, évidemment, on constate que par unité d'approvisionnement potentiel pour les acteurs de la solidarité, il y a une diminution. Donc, ce qui compte, c'est de multiplier les sources d'approvisionnement.
On reste ensemble et on continue à parler gaspillage alimentaire aujourd'hui et lutte surtout.
Il est 13h19.
Europe 1.
Le premier maillon de la chaîne, vous serez d'accord, c'est l'agriculteur, celui qui produit ce que nous mangeons. Et vous allez voir qu'avec Solal, lui aussi sait s'engager. A tout de suite.
C'est la journée mondiale de l'alimentation et la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. On en parle dans la France Bouge sur Europe 1. On attend vos réactions, vos questions sur Twitter, hashtag Europe 1 ou au téléphone 3921, Raphaël.
Ne rien jeter, c'est vrai dans nos cuisines, à la maison, dans les grandes surfaces aussi, les restaurants, mais c'est aussi vrai chez les producteurs. C'est avec la crise du concombre que la profession en a vraiment pris conscience. Bonjour Jean-Michel Hamel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général de l'association Solal. Je précise que ça s'écrit S-O-L-A-A-L. Vous avez mis en place une plateforme du don agricole aux associations. Je crois que c'est l'ancien président de la FNSEA qui en a eu l'idée en 2012, Jean-Michel Métayer, en faisant le constat que d'un côté, y avait des gens qui mouraient de faim et que vous, agriculteurs, on vous obligeait, en cas de surproduction, à jeter vos produits.
Oui, effectivement, c'est Jean-Michel Lemaitrier qui avait eu l'idée de mettre en place Solal, hein, qui avait dit « je ne supporte pas de voir dans mon pays des gens qui ne mangent pas leur faim ». Et puis, pendant un an, il en rencontrait des entreprises, des organisations professionnelles.
Pour essayer de structurer tout
130
ça
130 en un an, pour essayer de voir comment c'était possible de faire. Et puis, donc Solal a été créé en mai 2013. Malheureusement, Jean-Michel Lemaitrier n'aura pas connu le succès de Solal, puisque deux mois après, il disparaissait. Et donc, Angélique Delahaye a pris la succession. Et depuis, on est arrivé depuis 2013, on est à 15 000 tonnes de produits frais, donc l'équivalent de 30 millions de repas.
Ouais, 15 000 tonnes, 30 millions de repas. On n'a pas l'impression comme ça. Quand on dit 15 000 tonnes, on sait que c'est beaucoup. Mais quand vous traduisez, on se rend compte qu'effectivement, on peut faire des efforts et que ça se fait à tous les niveaux. Grosso modo, comment est-ce que vous fonctionnez? Vous allez voir les agriculteurs les uns après les autres. Qu'est-ce qu'ils donnent? Quand on parle de surplus, ça peut être quoi?
Alors, c'est la question. Quand on va voir les agriculteurs, c'est la question qu'ils nous posent. Qu'est-ce qu'on peut donner? La première réponse qu'on donne, c'est « est-ce que vous en mangeriez, vous ?» À partir de ce moment-là, s'ils nous disent oui, on sait que c'est possible de donner.
Ça va être quoi? Des pommes abîmées, par exemple?
Alors, il y a deux choses. Il y a du don volontaire, parce que les gens...
Parce qu'on a envie d'être...
Parce que l'agriculteur est dans son ADN solidaire. Et puis, il y a aussi les refus d'agréage. Il y a... Du hors-calibre.
Des œufs qui sont trop petits, par exemple.
Voilà, des œufs, essentiellement des fruits et légumes, puisque c'est ça le plus simple, il n'y a pas de transformation, qui sont, hors-calibre, qui sont mal formés.
Ce qu'on a appelé à un moment, et ce qui était d'ailleurs un peu moches. Les fameux légumes moches, c'est ça, on est un peu dans cette idée-là.
Oui, on est dans cette idée-là. On organise aussi des glanages. Alors, bien évidemment, du glanage encadré sur des parcelles qui appartiennent à des agriculteurs après récolte. Alors, cette année, on en a organisé avec des lycées agricoles de façon à sensibiliser les jeunes au gaspillage alimentaire, d'une. Et puis à la solidarité. Et tous ces produits-là sont donnés aux 17 associations nationales reconnues.
Ouais, la Croix-Rouge, les banques alimentaires, les Restos du Cœur, on pourrait toutes les citer. Guillaume, une question.
Ce flux-là, c'est un flux que vous réorientez vers les associations. C'est-à-dire qu'il était dans une économie peut-être très locale, écosystème, où il était vraiment jeté et il pas
était,
valorisé.
Il était perdu. Ce qui n'était pas glané au champ était retourné, enfin, partait, c'était
mis
perdu.
Mis à la poubelle, hein, ouais.
Oui. Les refus d'agréage.
Alors,
dans
qu'est-ce que c'est les refus d'agréage?
Par exemple, une palette qui arrive à la coopérative et puis on lui dit.
Le client la retourne.
Il la retourne.
Elle
n'est
pas conforme.
L'agriculteur peut nous appeler, nous dit voilà, moi j'ai ça à donner parce que je ne peux rien en faire. Alors que on a vu une tomate un peu abîmée et c'est la palette complète. Enfin, voilà.
Elisabeth, on parlait des associations, c'est en ce moment et c'est important de le signaler parce que ça fait partie du circuit, les 35 ans de la Banque alimentaire.
Oui, depuis 35 ans, les banques alimentaires œuvrent au quotidien pour lutter contre la pauvreté et la précarité alimentaire. Les banques alimentaires, ce sont plus de 6500 bénévoles qui gèrent 50 000 tonnes d'aliments, c'est-à-dire l'équivalent de 10 millions de repas. Tous ces produits sont ensuite distribués aux 5400 associations et aux partenaires des banques alimentaires qui sont chargés de les redistribuer aux personnes en situation de précarité. D'ailleurs, à l'occasion de ces 35 ans, la banque alimentaire, par exemple, de Rennes, ouvre ses portes cet après-midi de 15h à 18h pour faire découvrir au grand public, hein, son action quotidienne avec les bénévoles, avec ses installations et son fonctionnement. Et c'est important de le souligner aujourd'hui.
Vous avez un fonctionnement dans toute la France, justement. Vous avez des relais un petit peu partout sur le territoire.
On a des relais déjà qui fonctionnent. Il y en a déjà quatre qui fonctionnent bien, qui sont les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne, les Pays de Loire. On est en train d'essayer d'en faire dans toutes les régions.
Agriculteurs et administratifs, hein, c'est ça l'idée.
Voilà,
c'est
l'idée,
créer des
c'est de créer des binômes. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est certainement plus facile à aller convaincre un agriculteur en étant agriculteur soi-même, parce que les agriculteurs restent méfiants, et je pense que c'est normal aussi. Parce que,
voilà. On reste ensemble ? On continue à parler gaspillage alimentaire aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h28.
Europe 1.
Et lutter contre ce gaspillage, c'est aussi se tourner vers d'autres types de magasins pour acheter. C'est ce que propose Frais Malin, qui fait du déstockage alimentaire. A tout de suite.
Europe 1.
Comment lutter contre le gaspillage alimentaire? On en parle cet après-midi dans La France Bouge. Comment moins jeter? Comment mieux consommer? Dites-nous si vous avez des astuces au quotidien. Écrivez-nous si vous souhaitez réagir ou poser des questions à nos invités via Twitter @Europe1 ou alors appelez-nous au 39 21, c'est 50 centimes la minute, Raphaël. Pour ne pas gaspiller, eh bien, il suffit d'acheter autrement. C'est la première leçon à retenir. Bonjour Alexandre Jossot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez l'enseigne Frais Malin, le premier magasin ouvert en 2011. Comment est née l'idée? Vous l'avez co-créée avec finalement celui qui a eu l'idée de cette chaîne de grande distribution. Donc vous étiez tous les deux déjà dans la grande distribution.
L'idée est venue de mon associé. On est deux anciens de la grande distribution, directeur d'hypermarché. Et mon associé a ouvert le premier magasin en 2011. Où il s'est rendu compte au fur et à mesure des années qu'il y avait de plus en plus de marchandises qui étaient gaspillées. Donc il a ouvert un autre magasin il y a 2 ans et demi. Et puis moi je me suis lancé dans l'aventure il y a 1 an et demi avec un magasin. Et puis j'ai ouvert mon deuxième magasin il y a 3 semaines.
Donc ça signifie que quand je pousse la porte d'un Frais Malin, je trouve quoi? Du frais essentiellement, mais pas seulement?
Pas seulement. 60% de nos produits sont des produits frais. Et puis après le reste, des produits... épicerie avec de la DLUO dépassée ou DDM maintenant. Et puis aussi des fins de série de lessives, parce qu'ils ont changé la formule, de la peinture. On retrouve de tout dans le magasin.
Donc on va commencer par le frais. Le frais, qu'est-ce qui le différencie d'un autre magasin? Quelle est la différence entre votre enseigne et un hypermarché classique?
Alors déjà, la différence, c'est que tous les jours, quand nous, on se lève le matin, on ne sait pas ce qu'on va vendre. C'est des arrivages de sinistres transports. Ça arrive en fait toute la matinée et puis après nous on redispatche dans nos magasins, donc on peut avoir des fruits et légumes.
Donc je peux pas venir avec une course?
Pas du tout.
Avec une liste de courses, je ne sais pas ce que je vais trouver en rayon.
Non, les clients quand ils viennent chez nous en fait ils sont pas stressés, ils viennent sans liste de courses, ils viennent faire des affaires. Minimum on est 25% moins cher que les grandes surfaces. Après on n'a pas tous les produits, on va pas retrouver forcément du sucre, de la farine. On vit en fonction des arrivages, des litiges et puis des dates courtes de produits frais.
Vous avez aussi des surplus de producteurs qui arrivent jusqu'à vous ?
Surplus de producteurs.
Parlais des œufs tout à l'heure.
Des œufs, on a des œufs, des producteurs qui sont refusés par rapport au calibrage. Du coup, avant, ils ne savaient pas quoi faire de ces œufs-là. Ils passent par nous et on revend la marchandise.
Combien est-ce que vous avez de produits référencés en moyenne ?
Alors, c'est difficile parce que c'est un arrivage tous les jours, je dirais, en produits frais. Vous avez tous les basiques, du yaourt au fromage, à la viande, au dessert. Mais c'est impossible de vous dire le nombre de références, parce que ça change tous les jours.
Et vous dites sur le ticket de caisse, c'est entre 25 et 75% moins cher.
Exactement, oui.
En fonction des produits.
Oui, parce qu'en fait, notre méthode, si la date est... c'est une date courte, mais encore assez longue, on sera à 25%. Si la date est beaucoup plus courte, tout de suite, ça sera 50% pour le client. Et puis, quand on reçoit beaucoup de marchandises, si on n'est pas sûr de tout passer, du coup, on travaille avec la Banque alimentaire et les Restos du Cœur.
Guillaume Gibault.
Oui, dans le modèle, donc là, vous avez deux magasins à ce jour.
Quatre magasins à ce jour.
Pardon. Okay.
Vous deux et votre
mon associé.
Deux.
Okay.
Et l'idée, c'est d'en ouvrir 100, 200, c'est d'en ouvrir 25. Comment vous voyez les choses par rapport à voilà, pas mal d'enseignes avec les moyens financiers et capitalistiques qu'il faut mettre derrière?
Alors, l'idée, c'est pas d'en ouvrir une centaine, mais en fait, on s'est rendu compte que entre le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième, on a toujours du gaspillage alimentaire. On nous fournit toujours de la marchandise.
Mais Elisabeth,
du coup, comme c'est 25 à 60, c'est jusqu'à 75% moins cher qu'un panier moyen classique,
oui.
Mais on revient plus souvent chez vous, puisque comme ce sont des dates qui sont à court terme, hein, très courte durée, donc on doit revenir plus souvent. Donc finalement, on fait plus de courses.
Non, pas forcément. En fait, les gens achètent différemment. En grande surface, vous allez avoir des promotions avec des gros volumes. Nous, justement, c'est des gens, on va avoir les plus petits paniers moyens. Ils vont venir faire leurs courses régulièrement, mais ils vont...
Donc vous avez une clientèle qui revient.
Qui revient régulièrement. Ils vont faire en fonction de ce qu'on a et ils vont acheter la marchandise peut-être que pour deux jours au lieu d'acheter pour une semaine.
Les quatre magasins sont situés dans quelle zone géographique?
Ils sont en Sarthe, autour du Mans.
Vous avez la volonté de vous étendre. Comment est-ce que vous allez faire justement pour reprendre ce que disait Guillaume, pour aller au-delà de la Sarthe et finalement arriver un petit peu partout? Est-ce qu'il y a des endroits en particulier que vous ciblez?
Alors aujourd'hui, on cible pas du tout d'endroits. L'idée, c'est de se dire si on continue à avoir de plus en plus de marchandises, on se posera la question, oui, de continuer à développer l'enseigne. Mais pour le moment, on vit au jour le jour en fonction des arrivages des produits. Si on augmente les volumes, c'est sûr qu'on ouvrira peut-être d'autres magasins. Mais aujourd'hui, déjà à 4 magasins, on passe déjà beaucoup de volume. Déjà.
Elisabeth,
quels sont les produits qui reviennent le plus souvent ?
Eh ben, alors dans les produits, on a beaucoup en produits frais, la viande. Où là, il y a des contrats à date entre un industriel et puis une grande surface. Et puis les fruits et légumes aussi.
Viande, fruits et légumes.
Ouais.
Mais l'épicerie, moins.
Alors si, l'épicerie, on a beaucoup d'épiceries.
Ah, hein.
Si.
Boîtes cabossées, par exemple ou...
C'est surtout, en fait, c'est toujours pareil. En fait, les contrats à date, des produits où il reste 6 mois de date sur de l'épicerie, de la boisson. Et puis nous, on vend, en fait, des produits à date dépassée. L'idée, c'est d'éduquer, en fait, les gens.
Quand vous dites date dépassée, alors...
DLUO, donc c'est
voilà.
Date limite d'utilisation optimale. Donc c'est des produits qui sont encore comestibles.
Pendant combien de temps ?
Un an, voire deux ans après la date.
Ça dépend du produit qui est contenu.
Quel type de produit c'est, par exemple ?
Chips, boissons gazeuses, vous avez de la conserve, un peu tout en fait. Vous retrouvez un peu tous les produits dans qu'une grande surface.
Guillaume ?
C'est quoi les mots de vos clients en fait quand ils viennent chez vous ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Parce que
alors, dans un premier temps, à chaque fois qu'on ouvre un magasin, l'idée c'est d'éduquer en fait les gens. Parce qu'on nous a tous appris que le produit, il y avait une date. Surtout, ne pas consommer après la date.
Mais franchement, parfois, c'est moins bon quand même. C'est vrai.
Nous, ouais, on goûte régulièrement les produits. Ça fait des années que je mange des produits à date dépassée.
Vous avez l'air en bonne santé.
C'est pas une histoire de santé. Au niveau de la qualité gustative.
Le goût, oui, peut altérer. Mais,
un peu altéré.
C'est minime quand même. C'est très, très, très minime.
Vous avez 70 personnes qui travaillent aujourd'hui avec vous.
Oui, oui.
Vous ne faites jamais de publicité, moi ça m'a étonné aussi. Vous dites on fonctionne autrement.
Non, l'idée en fait c'est d'aller jusqu'au bout. On lutte contre le gaspillage alimentaire, mais on lutte aussi pour l'écologie. Pourquoi communiquer sur un concept comme le nôtre? On a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tous les jours on met nos arrivages sur Facebook. Et puis ça fonctionne. On a 8000 adhérents sur un site Facebook. L'autre magasin, aujourd'hui, je l'ai ouvert il y a 3 semaines, on est déjà à 3000 abonnés. Et on fonctionne que comme ça.
Je voudrais qu'on dise un mot, puisqu'on est en train de parler des hypermarchés, de l'agriculture, des restaurants, de la restauration collective, parce que ça, c'est un point important, Elisabeth.
Oui, la restauration collective, comme une cantine scolaire ou un restaurant d'entreprise. Tiens, de 500 personnes, par exemple, ça gaspille l'équivalent de 1000 tonnes de nourriture par an, c'est-à-dire 22 000 repas. Et ça coûte à la collectivité 33 000 euros par an. Donc, il y a des solutions qui existent en France. Par exemple, Mille Cantines,
qu'on connaît bien ici,
que nous avions reçu. C'est une application prédictive qui permet donc de savoir à l'avance l'affluence de votre cantine d'entreprise, ainsi que le choix des convives, ce qu'ils vont choisir à midi, pour pouvoir prévoir le stock nécessaire. Vous avez aussi des solutions comme Foodles. Foodles, ce sont des frigos connectés. Salle à demande, vous avez le choix, vous avez 3 entrées, 3 plats, 3 desserts, vous choisissez salle à demande. Donc normalement, il y a moins de gâchis que ce qui existe aujourd'hui.
On reste ensemble et on vous attend pour parler gaspillage alimentaire aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h39.
Europe 1.
39-21, Twitter, venez, appelez-nous, décrochez votre téléphone, donnez-nous vos astuces pour lutter contre le gaspillage alimentaire. À tout de suite.
La France bouge avec au programme cet après-midi la journée anti-gaspillage alimentaire. Vous nous en parlez, Raphaël Duchemin, avec vos invités.
Alexandre Jousseau, qui dirige Frais Malin, une enseigne de déstockage alimentaire. Jean-Michel Hamel, qui est secrétaire général de l'association Solal, S-O-L-2-A-L, une plateforme du don agricole aux associations. Et Xavier Corval, fondateur d'Écosphère, président fondateur d'Écosphère, entreprise spécialisée dans la réduction des surplus et des déchets et de leur revalorisation. Elisabeth, quel type de solution facile, on peut là tout de suite mettre en place rapidement dans notre quotidien.
Pour,
vous avez ça ?
Pour moins gaspiller, faire des économies, c'est
oui.
Ça. Bah alors déjà, première chose, et bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut regarder les dates de péremption courtes dans les rayons parce qu'on les achète, on les consomme et on va pas les gaspiller, on va pas les laisser traîner. Il faut aussi acheter, pourquoi pas, en fin de fournée, les viennoiseries, en fin de journée, les viennoiseries, les pains invendus, fabriqués la veille parce que souvent on les retrouve en promotion et puis il suffit juste de les chauffer et on retrouve un goût assez appétissant. Et puis on n'hésite plus à faire appel aux applications anti-gaspi telles que Too Good To Go, Phoenix ou Karma qui permettent de réserver des invendus des commerçants auprès des boulangers, des restaurants, des paniers de produits d'épicerie pour 4 ou 5 euros en moyenne.
Voilà pour les petites astuces faciles qu'on a toutes finalement et tous dans notre téléphone. Vous me disiez justement, Xavier, qu'il y avait aussi un lien à faire entre le gaspillage alimentaire, ou en tout cas la réduction du gaspillage alimentaire et le changement climatique. On ne le voit pas forcément. Je prenais l'exemple tout à l'heure hors micro de la cerise. On ne va pas l'acheter. La cerise, c'est un fruit d'été. On ne l'achète pas au mois de décembre, sinon elle a forcément voyagé. Et donc, elle pollue davantage.
Exactement. En fait, c'est l'objet de la mobilisation à Marseille samedi. Comment on va comprendre en fait, que le gaspillage alimentaire et réchauffement climatique sont liés sur le Vieux-Port entre 11h et 15h. Le gaspillage alimentaire, c'est le troisième responsable de l'émission de gaz à effet de serre au monde. C'est-à-dire que le gaz à effet de serre, il est émis à la production, à la transformation, au transport, comme vous venez de le dire, mais aussi à la distribution. Et quand on jette, quand on enfouit, quand on incinère, tout ça, ça produit du gaz à effet de serre. Et donc, c'est extrêmement important de comprendre que tout est lié. Les enjeux sont de plus en plus nombreux connectés au gaspillage alimentaire. Et donc, résister au gaspillage alimentaire, le réduire, c'est aussi comprendre qu'on se mobilise pour le climat et contre le réchauffement climatique. C'est extrêmement important pour la planète, pour les îles et pour tous les pays.
Guillaume Gibault,
vous disiez
coach.
Au début, je crois que vous êtes ESS, entreprise de l'économie sociale et solidaire.
Oui, ESS, dotée d'un agrément qui s'appelle l'agrément ESUS.
Est-ce que on parle de l'entreprise à mission, de raison d'être, de l'engagement? Est-ce que pour vous, c'est un vernis qu'on met pour continuer à faire ce qu'on faisait jusque-là? Ou est-ce que vous avez l'impression que l'entreprise, et moi c'est ma conviction, je vous pose une question en espérant que vous allez dans mon sens, mais que l'entreprise est finalement un bon niveau pour intervenir avec de l'impact à partir du moment où on la pointe dans la bonne direction? Est-ce que vous sentez cette espèce de point de bascule dans la mission, l'objet social de l'entreprise qui fait qu'en fait on va créer des boîtes qui vont vraiment avoir de l'impact, le mesurer, ce qui est un vrai sujet, et aller dans cette direction-là? Ou est-ce que pour vous, il y a de l'effet de manche?
Je vais vous proposer un sujet d'investigation, en fait. Pour moi, l'entreprise à mission, c'est une étape. C'est une reconnaissance de l'éveil à la conscience environnementale des chefs d'entreprise, des décideurs, et c'est extrêmement important de le concrétiser à travers ce statut ou cette reconnaissance d'entreprise à mission.
Mais il faut moi, que cette mission, elle soit partagée par tous, finalement. Ça ne soit plus une simple mission, mais que ça devienne un automatisme.
Je pense qu'il faut aller encore plus loin. C'est-à-dire que le jour où toutes les entreprises comme Écosphère, ont décidé que la majorité des bénéfices générés par leurs activités sera consacrée à des missions d'intérêt général plutôt qu'à la concentration des richesses dans les seuls actionnaires, on aura changé extrêmement beaucoup de choses dans la société. Et c'est ça le sujet d'investigation que je vous propose.
Vous êtes d'accord, Alexandre ?
Oui, je suis d'accord. Oui.
Et vous aussi ?
Tout à fait.
Oui. Finalement, le gaspillage alimentaire, on a tous les moyens de lutter contre. Il suffit d'être un petit peu en éveil.
Oui.
Elisabeth, ailleurs à l'étranger, les supermarchés,
mais vous savez qu'ils pratiquent des happy hours. C'est-à-dire, il y a des moments, par exemple en Finlande, les supermarchés S-Markets ont étendu un modèle de vente flash sur les denrées périssables pour limiter le gaspillage alimentaire. Ils proposent par exemple des réductions sur les produits aux dates courtes, de moins 30 à moins 60%, de 21h jusqu'à minuit. Les invendus finissent chez un restaurateur qui utilise même parfois des produits périmés reçus gratuitement des supermarchés pour élaborer des menus à bas prix. Au Royaume-Uni, vous avez les fast-foods asiatiques Itsu qui baissent leur prix de moitié 30 minutes avant la fermeture. Il faudrait peut-être qu'on s'en inspire.
Oui, c'est pareil au Japon d'ailleurs. Hein. Ils font exactement la même chose. Merci à tous les trois d'être venus nous parler gaspillage alimentaire aujourd'hui sur Europe 1.
Merci.
Il est 13h47. Hein.
Europe 1.
Et on va rester ensemble, bien sûr. Elle existe depuis 1860. C'est la toute dernière à fabriquer des baromètres en France, Naudé. Et l'entreprise qui va bien. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien.
Et cette entreprise, eh bien, c'est Naudé, N-A-U-D-E-T. Ça vous dit probablement quelque chose.
Effectivement.
Parce que c'est une des dernières à fabriquer, c'est même la dernière à fabriquer des baromètres en France. Bonjour Charles Fries.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui la dirigez désormais, cette belle maison, la maison Naudé. Qui est né 16 ans après l'invention du baromètre, hein, si j'ai bien fait les comptes.
Oui, exactement. C'est un ingénieur français qui a inventé cet appareil qui vous permet en fait, c'est l'ancêtre du bulletin météo. C'était le meilleur moyen d'avoir la météo à la maison.
Alors, tout commence en 1860. Quatre associés, dont le fameux Naudé, fondent l'entreprise. Il y a d'ailleurs encore leurs initiales aujourd'hui dans votre logo.
Oui, on le garde dans le logo. Il y avait quatre associés. Je ne sais pas comment ils ont déterminé qui allait avoir le nom de la société. Donc c'est M. Naudé qui a remporté le match, on va dire. Et donc la boîte existe depuis 1860. Et depuis cette époque, on fabrique des instruments pour la météo, des instruments mécaniques. On est très connus chez les amateurs de ce genre de produits pour les baromètres.
Ouais. Ouais, à l'époque, on ne se rend pas compte, mais c'est une véritable avancée technologique. En 1884, là, il y a une autre étape. C'est un des ouvriers, je crois, un monsieur Dourde, hein, qui va racheter la société. Sa famille va d'ailleurs la conserver jusqu'en 2003. À l'époque, on voit les camions Naudé. Vous avez d'ailleurs quelques belles vieilles photos qui sillonnent la France. Et Naudé travaille avec des opticiens, des bijoutiers.
Oui, il y a un réseau traditionnel à l'époque. On a effectivement des photos des années 50 avec des camions qui sillonnent la France. C'était les maisons de cadeaux aussi. À l'époque, on avait un appareil Naudé dans sa maison. Tout le monde avait un baromètre. Et puis, avec le temps, les révolutions technologiques dans l'univers de la météo, il s'est passé que l'entreprise a vu ses volumes de vente baisser, sa notoriété se dégrader. Et puis, on arrive en 2014, la société est sur le point de couler. Et puis, notre nouvelle équipe reprend le flambeau.
Ouais, c'est là que vous entrez en piste.
Exact.
Entre-temps, l'entreprise est labellisée aussi entreprise du patrimoine vivant.
Oui, il fallait à tout prix qu'on assoie le passif, qu'on soit certain d'être reconnu dans notre histoire. Donc on est allé chercher le seul label d'État qui s'appelle entreprise du patrimoine vivant, EPV, qui vient récompenser notre savoir-faire. Et c'est vrai que ça nous a permis d'accéder à un réseau d'autres entreprises comme nous.
Et puis ça vous permet aussi de garder le savoir-faire et en même temps de la moderniser, cette entreprise Naudé, et de lui donner d'autres moyens.
Oui, parce qu'on a un pied dans le passé, mais on ne peut pas aujourd'hui faire avancer une boîte comme ça avec des instruments qui, pour beaucoup de gens, paraissent désuets. On a aussi des clients professionnels qui aujourd'hui cherchent encore des appareils comme le nôtre. Donc il faut avoir aussi un pas dans l'avenir.
Ouais. Oui, parce que ça ne fait pas que mesurer l'air du temps. Hein. Tout ça peut aussi être utile, par exemple, pour les machines en radiothérapie.
Oui, exact. Un baromètre sert notamment Donc un baromètre mesure la pression atmosphérique et ces machines ont besoin d'être calibrées. Donc chez les professionnels, on retrouve nos appareils dans les salles de soins pour traiter le cancer.
Une question de notre coach, Guillaume.
Moi, j'ai un souvenir ému de baromètre parce que mon grand-père en avait un. Je crois qu'il n'est pas très loin du modèle qui est posé là sur la table. Donc, je mesure le côté nostalgique de ce genre d'objet. Quand on reprend une boîte familiale comme ça, dans un contexte compliqué, si je caricature, il y a un peu deux choix. Est-ce qu'on est EPV avec un objet d'art qu'on va vendre, j'imagine, assez cher, à des collectionneurs, à des gens très pointus, peut-être à des étrangers qui sont fans de ce côté EPV et tout ça? Ou est-ce qu'on prend cette vague de modernité avec les Netatmo et tous les gens qui se positionnent sur ce côté-là, dans l'application, dans le téléphone, la maison connectée? Enfin, on se dit que c'est compliqué de faire les deux. Est-ce qu'il y a un choix radical ou est-ce qu'on tâtonne? Comment vous voyez les choses?
On s'était fixé trois objectifs quand on a repris l'entreprise. C'était vraiment pérenniser le passé. Ensuite, faire de nouveaux produits pour accéder à des marchés qui devenaient émergents. On a fait, par exemple, des petits indicateurs pour la cave à vin. C'était faire avec ce qu'on avait. Et on est rentré, effectivement, dans cette phase 3 qui consiste à faire des nouveaux produits et rentrer dans des marchés qu'on ne connaît pas. Donc ouais, c'est tout le jeu consiste à garder un pied dans le passé, se pérenniser avec le label, tout en regardant effectivement ce qui se fait chez les concurrents, l'électronique, effectivement. Garder notre identité traditionnelle, mais pas oublier qu'effectivement, il faut qu'on évolue.
Oui, et puis vous avez aussi misé sur la collaboration avec le luxe et manifestement, sortir par le haut, ça vous réussit, puisque vous faites 20% de croissance aujourd'hui pour une entreprise qui, en 2014, était quasiment vouée à la disparition.
Oui, exactement. On reste une petite entreprise artisanale. Mais c'est vrai qu'on
personne qui travaille avec
vous. Oui, exactement. Donc derrière, c'est aussi des familles. Donc c'est ça qui fait qu'on se lève le matin. Et on a effectivement pour objectif de continuer à croître à notre rythme.
Et à transmettre.
Et à transmettre, c'est hyper important. Ouais. Le savoir-faire a besoin d'être transmis. On est des collaborateurs qui arrivent à l'âge de la retraite. Et il va falloir qu'on transmette... Pour transmettre le savoir-faire, un sacré défi aussi. Ouais.
Ouais. Et pour la petite anecdote, Eric Tabarly avait toujours un baromètre Naudé quand il partait en mer. Hein. C'est important, voilà, ça, c'est aussi un gage de confiance et de qualité.
Ouais, on a beaucoup d'histoires. Ouais.
Naudé, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu parler aujourd'hui. Merci à Guillaume qui était notre coach. Guillaume Gibaud, fondateur du Slip français. Elisabeth, Céline, on se dit à demain.
À demain.